l'histoire et que une question métaphysique parmi les plus classiques, à savoir l'existence et la nature de Dieu, n'est pas quelque chose qui doit vous faire peur. Je voulais commencer cette matinée par une petite blague qui va vous montrer que vous êtes tous comme M. Jourdain, vous en faites sans savoir de la métaphysique. Alors c'est fait pour. C'est l'histoire de deux poissons rouges dans un bocal. Le premier poisson rouge demande au deuxième « Est-ce que toi tu crois en Dieu ?» Ça n'a plus la réponse. Et l'autre lui répond « Bah, évidemment il existe, sinon qui changerait l'eau du bocal ?» Eh bien, nous sommes un peu dans cette situation. Alors, nous sommes des petits poissons pas rouges, mais en tout cas, nous nous mouvons dans un univers, un espace qu'on nous a livré sans la notice. Alors, la première tentation, c'est évidemment de dire que si le monde est tel que nous fabriquons des objets, sans doute quelqu'un l'a créé. Et aussitôt, on peut dire que tel le poisson qui fait sa réponse un peu rapidement, eh bien, il se pourrait que ce monde soit juste là, comme ça. On dirait, selon les termes à la mode, par hasard, manière sans doute de ne pas répondre à la question, mais en tout cas manière de prouver que la question s'est posée. Alors, parmi cette interrogation métaphysique, de manière assez générale, celle de l'existence de Dieu et de sa nature, vous allez voir que cela va de pair, fait partie des plus traditionnelles, mais pas, j'espère en tout cas, par la tradition. En plus, en raison de sa nécessité, je vais ici l'origine du monde, c'est une manière d'arriver à cette question. Mais il suffit d'entendre un enfant de passage qui demande pourquoi les choses sont ainsi, ou comment on fait le bébé, la grande question, et qui a fait les parents du bébé, etc. On peut s'apercevoir que c'est une interrogation assez naturelle, même si, bien entendu, la vie sociale, le divertissement au sens large, le divertissement pascalien, tendrait à la masquer au moins en partie. Alors, l'avantage de cette question, parmi les grandes questions, c'est qu'elle a un caractère non seulement premier, mais extrêmement synthétique. Ne serait-ce que dans mon approche, vous avez senti que c'est une manière d'interroger l'origine du monde. Pourtant, on pourrait poser la question de l'origine du monde indépendamment de Dieu. En tout cas, on pourrait commencer par cette question sans aller vers ce qui ressemblerait à une théologie. C'est une manière d'interroger l'orientation du monde. Il ne suffit pas d'avoir créé, il faut lui donner un certain sens, une certaine finalité, un certain ordre, on va en reparler. Bref, vous avez tout un tas de notions cruciales en philosophie et cruciales en métaphysique en particulier, qui vont converger à l'intérieur de ce concept, Dieu, qui pour l'instant, pour nous, n'est pas un nom sur un problème, un nom sur un ensemble de problèmes, et qui fait que c'est une très bonne clé d'entrée pour plein de choses, non seulement en la métaphysique, mais même dans la métaphysique, pour rassembler l'ensemble des problèmes. Alors soyons un petit peu plus précis, que prouve l'épreuve de l'existence de Dieu? On a une redondance assumée. Les causes de l'existence de Dieu sont non seulement quelque chose dont on peut parler, mais c'est même une étiquette qu'on a collée sur toute une réflexion tout au long de l'histoire de la métaphysique. C'est-à-dire qu'on peut suivre, arbitrairement on va dire depuis Platon, mais on va remonter jusqu'à Parménide, jusqu'à au moins la philosophie analytique du XXe siècle, un débat qui reprend un certain nombre de termes communs, d'arguments communs, pour les réfuter, pour y revenir, pour les renforcer, pour les réinterpréter. Donc on peut parler d'une histoire des preuves de l'existence de Dieu à l'intérieur de la philosophie. Évidemment, se demander ce qu'elle prouve, c'est d'estimer d'emblée qu'elles ne sont pas définitivement probantes. Ce serait d'ailleurs peut-être plus de la philosophie si ces preuves étaient définitives. Il n'en reste pas moins qu'elles se présentent comme des preuves. C'est-à-dire, elles prouvent une existence en définissant nécessairement ce qui existe. Donc, dans l'existence, on va forcément avoir la question de la définition, inévitablement, et elles prétendent être définitives, en tout cas pour celui qui les défend et propose une argumentation au moins particulièrement originale, elles se présentent comme l'expression d'une argumentation, d'une rationalité, un enchaînement, un syllogisme, enfin, tous les moyens sont bons, mais l'idée, oui, alors pourquoi je m'approche, mais si je ne m'approche pas, c'est pas assez fort. Vous m'entendez bien? Ah, vous voyez, bon. Je vais essayer de la respecter. Donc,
12 cm. 12 cm, peut-être en
même temps. Il faudrait mettre un truc en maille, en fait. En maille devant le micro pour pas que ça... Enfin, genre... De la mousse, un peu, en fait. Non, mais c'est vrai. Normalement, le souffle, il marchera. Il n'y aura plus de...
Alors, je reprends. Tu disais que la question de la preuve de l'existence de Dieu est en fait un projet extrêmement ambitieux, puisque on prétend trouver. Et trouver quelque chose, vous le sentez bien dès le départ, ne se donne pas comme une évidence, parce que ce serait plutôt invisible, en tout cas dans les représentations actuelles, plutôt extrêmement massif, plutôt extrêmement infini, plutôt extrêmement impalpable, plutôt extrêmement supérieur, bref, tout ce qu'on ne peut pas saisir. Et pourtant, on prétend trouver. Donc vous sentez déjà qu'il y a là, c'est pas une contradiction, mais au moins une difficulté, à savoir, on peut prouver depuis notre ordre à nous, humains, avec nos moyens à nous, humains, quelque chose qui serait extra-humain, extra-terrestre, extra-mondain, bref, métaphysique. Nous y sommes. Et vous voyez que pour parvenir à cette notion métaphysique, il n'y a pas un long chemin à faire. Il suffit de laisser l'interrogation naturelle se développer. Alors, en demandant ce qu'elle prouve, je le fais finalement avec le recul de l'histoire de la philosophie, en disant qu'il y a eu autant d'exercices de réfutation des preuves de l'existence de Dieu que d'exercices d'expression des preuves de l'existence de Dieu. Donc, on est en droit, du point de vue simplement historique, de vouloir faire du bilan. Mais plus encore, à partir du moment où on parle de preuves pour quelque chose qui n'est pas de notre ordre à nous, c'est-à-dire en vocabulaire de la philosophie classique, qui n'est pas immanent, qui est transcendant. C'est pas un mot compliqué, c'est juste pour dire qu'il échappe à notre ordre humain. Eh bien, le problème est renforcé, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une question historique, parce que quasiment toutes les questions philosophiques pourraient faire l'objet d'un scepticisme au terme de 2500 ans d'histoire de la philosophie. Ici, ce problème est renforcé. Les preuves de l'existence de Dieu prétendent apporter le plus grand crédit à des affirmations au sujet de quelque chose qui nous dépasse presque absolument. Donc la notion de preuve est encore plus fragile ici. Ou, au choix, elle est plus ambitieuse. C'est plus facile de prouver une thèse en physique, en tout cas physique classique, que de prouver une thèse en métaphysique. Il n'y a pas de laboratoire pour cela. Peut-être un autre système de preuve. En tout cas, voilà le projet de ces preuves et voilà leur ambition. Et puis, ce premier paradoxe fondé sur l'histoire, fondé sur la différence d'une preuve immanente de quelque chose qui concernerait ce qui est extra-humain, eh bien, c'est renforcé par autre chose qui est là aussi historique, mais pour des raisons logiques, en réalité, c'est évidemment la concurrence qui s'ouvre à cette occasion entre la philosophie, la métaphysique, et la religion. Enfin, s'il y a bien un domaine qui avait précédé la philosophie et qui prétend au monopole du discours juste, en tout cas sur Dieu, ou sur les dieux, dans les époques, eh bien, c'est la religion. Et de ce que l'archéologie nous apprend, on devine que le fait religieux est bien plus ancien que la philosophie, autant que nous puissions juger aujourd'hui, en tout cas. C'est-à-dire que la philosophie arrive après, et elle arrive avec une ambition d'emblée et peut-être trop ambitieuse, suspecte, douteuse, présomptueuse, au sein d'un domaine qui est déjà occupé, et si je prends les représentations qu'on connaît mieux, c'est-à-dire les représentations judéo-chrétiennes, eh bien, sur un domaine où la religion a déjà dit qu'on ne pouvait pas tout comprendre. Alors, la religion aurait au moins cet avantage. Voilà. Elle dit, il y a des mystères, respectons-les, etc. Celui qui dit qu'il les comprend, il a déjà dit une bêtise. Alors, la philosophie, non seulement elle prétend les comprendre, mais elle prétend dire, mais il y a des mystères, finalement. Vous voyez, on a là un deuxième paradoxe qui se vit dans la chose, c'est-à-dire non seulement on peut suspecter une difficulté qui serait propre aux notions elles-mêmes, mais l'espace culturel dans lequel s'inscrit cette question vient rajouter à ce soupçon quant à la possibilité de conclure ce débat, Autrement dit, on aurait là un débat extrêmement présomptueux pour un résultat parfaitement discutable. Et c'est à peu près ce qui se passe dans l'histoire de la philosophie. Je vous le dis à titre général, je vais le détailler ensuite. C'est-à-dire qu'on peut considérer que c'est une question très intéressante, ou au contraire que c'est un débat stérile, voire totalement méprisable. Question très intéressante parce que, après tout, si je prétends au mystère, comme l'ont fait les religions, chacune à sa manière, avec des représentations différentes, mais depuis la nuit des temps, eh bien, c'est aussi la meilleure manière de ne pas chercher les réponses. Quand un problème n'est pas compris, on peut soit dire qu'il est incompréhensible, et donc s'arrêter d'essayer de trouver la solution, ou bien au contraire, dire qu'il n'est pas compris parce qu'il n'a pas encore été compris. Si la science s'était arrêtée à l'idée de mystère, il n'y aurait pas eu de science. On a dit, bon, voilà, le monde est mystérieux, acceptons-le ainsi, il n'y aurait pas eu de progrès technique, il n'y aurait pas eu, etc. Bon. Donc vous sentez bien qu'il y a une difficulté. Tout problème non encore résolu est soit un problème qui ne peut pas l'être, soit un problème qui finira par l'être si on s'en donne les moyens, et cela peut prendre du temps, des décennies, des siècles, des millénaires. Autrement dit, l'idée de mystère ou d'incompréhensible, ou d'au-delà, ou d'impossible à comprendre, quand on peut prendre toutes les expressions possibles, eh bien, ce sont des expressions aussi bien intentionnées, parce que invertueuses, extrêmement dangereuses. Et justement, ceux qui insistent sur le danger de ces tentatives, eh bien, considèrent que ce débat est extrêmement stérile et méprisable, et que les philosophes, les métaphysiciens, tous ceux qui, même en théologie, s'en rapprocheraient, parce que de fait, certains théologiens qui s'assumaient comme tels ont pu être accusés de philosophie, hein, à certains siècles, ce seraient finalement des gens qui auraient un ego surdimensionné et qui, sous couleur de vouloir faire avancer la science, de ne pas se perdre dans l'idée que comme c'est mystérieux, on ne va pas chercher à trouver la réponse, eh bien, finissent par inventer des fausses solutions ou bien par croire qu'ils sont dieux eux-mêmes. Ce sera d'ailleurs parfois le cas. On verra un philosophe tout à l'heure, je ne le dis pas tel quel, mais quand même, l'esprit, c'est moi. Bon, il est vrai que ça peut arriver, mais dans un certain contexte, avec un certain sens, qui, de fait, permet de conclure en disant que cette critique est peut-être bien intentionnée, mais comme certaines bonnes intentions, peut se retourner en son contraire. Alors, je voudrais, au terme de cette présentation des difficultés principales, poser trois questions qui, j'en suis désolé, sont des questions archi-classiques sur ce débat. Je vais d'ailleurs prétendre à aucune originalité ce matin, plutôt à la clarté et à la synthèse. Première question, que je pose quand même en termes précis, Dieu est-il un objet de preuve? Alors, pour la notion de preuve, je crois que vous avez compris, c'est-à-dire une démarche rationnelle au sens large, on verra qu'il y en a plusieurs, qui permet d'affirmer de manière certaine. En tout cas, c'est la preuve au sens le plus pur, après il y a peut-être des degrés, mais objet, c'est un peu différent. Alors, pourquoi parler d'objet ici? Parce que dans la présentation classique de la connaissance, l'objet n'est pas juste la chose que je peux manipuler, bouger, fabriquer, vendre, acheter, etc. L'objet, c'est ce qui me fait face, c'est que j'essaie de comprendre. Voilà le vocabulaire plus classique. L'objet, c'est ce qui fait face au sujet. Et le sujet, eh bien, c'est moi. C'est moi en tant que j'essaie de comprendre l'objet. Donc, tout ce qui est différent de moi en tant que j'essaie de le penser, on va le qualifier d'objet. C'est pas un problème dans la plupart des situations. Essayer de comprendre le soleil, c'est faire du soleil un objet scientifique. Essayer de comprendre la société, c'est faire de la société un objet scientifique. Pour Dieu, c'est un peu plus embêtant. Parce que Dieu ne se met pas dans un tube à essai, je dirais le soleil non plus. Mais surtout, le soleil, il est inerte, il est compréhensible, on apprend plein de choses. Si Dieu est notre créateur ou notre supérieur, ou tout ce qu'on peut dire de mieux que nous, eh bien, en faire un objet, c'est déjà essayer de le ramener à quelque chose qui nous serait plus familier, qui serait plus manipulable, qui serait plus compréhensible. Et on retrouve la difficulté initiale. Sauf que, est-ce qu'on peut comprendre quelque chose sans en faire un objet? Parmi les choses que vous comprenez, est-ce que vous ne les mettez pas, au moins dans un premier temps, à distance, pour dire, bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je peux en dire? Comment ça se définit? C'est-à-dire, comment je le délimite? C'est-à-dire, comment je fais en sorte que sa limite n'est pas ma limite? Cette table n'est pas moi. Il faut déjà que je la mette à distance. Alors, mettre à distance une table, c'est pas un problème. mettre à distance quelque chose qui est censé nous avoir traîné ou tout expliquer, c'est évidemment délicat. Deuxième question qui lui fait suite immédiatement, c'est évidemment tout notre pouvoir de connaissance qui se trouve questionné à cette occasion. Et j'irai d'ailleurs vers cette conclusion, c'est que s'il y a bien une chose qui est éprouvée, ou un être qui est éprouvé par la question des preuves de l'existence de Dieu, c'est plutôt nous, dans notre pouvoir, nos limites, nos capacités, non sans doute pour conclure sur une fatalité extrêmement périlleuse, mais en tout cas, pour peut-être discerner ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Et puis bien sûr, on va retrouver, chemin faisant, toute la concurrence de la philosophie et de la religion. Peut-être que finalement, le danger annoncé de manière bien intentionnée va se révéler comme une intention très fondée, ou peut-être justement qu'on verra que la religion a à apprendre d'une démarche qui se veut plus rationnelle, ou au contraire, que la philosophie devra peut-être se subordonner pour certaines questions, aux conclusions des différentes religions. Alors commençons par exposer ces preuves-là. Donc je ne vais pas toutes les exposer, j'ai pris celles qui me paraissaient les plus riches et les plus facilement assimilables dans la matinée que je vous ai donnée, au sens où j'ai essayé de faire une recension, alors entre celles qui se ressemblent, les variantes, les presque pareilles, les un peu différentes, mais pas trop, etc., j'en arrive à peu près à 8 preuves de l'existence de Dieu sur toute l'histoire de la philosophie. On en connaît plus classiquement 5, qui sont rassemblées par saint Thomas dès le début de la somme théologique, et parmi ces 5, je vais en choisir 2, auxquelles je vais rajouter celle de saint Anselme. Donc finalement, on en écrira 3. Et pour être encore plus dans l'économie, je vais présenter les 2 premières ensemble. Vous voyez, je disais que je vais essayer d'être synthétique, c'est le cas. Alors commençons par celle qu'on appelle la preuve cosmologique, dont vous allez sentir qu'elle se dédouble en preuve téléologique. Que les mots ne vous fassent pas peur, c'est assez simple. Cosmologique, c'est une preuve qui repose ou qui concerne le monde, son existence, sa nature, et son ordre, en tout cas, dans un certain type d'ordre. Alors, on trouve ça quasiment dès les débuts de l'histoire de la philosophie. On pourrait l'apercevoir déjà chez Parménide. On peut tout à fait le trouver chez Platon. J'ai choisi ici un texte d'Aristote. Les philosophes, parfois, ont le sentiment de se répéter. En fait, chacun, il est sa petite variation et son vocabulaire. L'avantage du texte d'Aristote, c'est qu'il consacre dans la métaphysique un chapitre entier, le livre Lambda, à la question de la nature et de l'existence de Dieu. Alors, je vais d'abord vous présenter l'argument avec mes mots, hein, et ensuite on va prendre le texte lui-même. C'est le texte, je reviens à l'interrogation de l'enfant. Comment on fait les bébés? Alors, il y a sans doute des manières d'esquiver, les cigognes, Père Noël, vous êtes là. Si on veut être honnête sans trop rentrer dans le détail, on dira bien, quand le papa aime beaucoup la maman. Ce sont des choses qui arrivent. Bon. Alors, d'où la question qui suit. Et donc, ton papa et ta maman, ils ont dû faire pareil. Oui. Et pas besoin d'être extrêmement habile en logique ou d'être extrêmement éveillé. La question de qui était le papa du papa du papa se pose vite, et le papa du papa du papa se pose vite, et arrive la question fatale, qui a été le premier papa qui n'a pas eu de papa? Alors là, c'est dans l'ordre de la génération humaine. Vous avez strictement la même chose dans l'ordre de l'existence des choses, la chaise, la table, tous les objets, qu'ils soient fabriqués par l'homme ou naturels. Alors pour les objets naturels, je viens d'en parler. Pour les objets fabriqués, bon, en dernier lieu, on peut toujours dire que c'est l'homme qui les a fabriqués, mais selon le même schéma, qui a fabriqué l'homme? Donc on revient à la question que j'ai évoquée. Et même à supposer qu'il n'y avait pas eu toujours des hommes sur Terre, il devait y avoir la Terre quand même. Donc qui a fabriqué la Terre, etc., etc. Il y a une manière d'ailleurs vulgaire, ou amusante plutôt, de présenter cela, c'est de la petite histoire sur l'œuf et la poule. Hein. Qu'est-ce qui est le premier, l'œuf ou la poule? Alors, il y a toujours un qui a le sentiment. Alors, la réponse est évidente, c'est forcément l'œuf, hein, sinon il n'y a pas de poules. On s'aperçoit en général assez vite qu'il faut des poules pour pondre des œufs. Eh bien, en dans un vocabulaire plus technique et avec plus de détails, c'est ce que nous dit Aristote en Métaphysique Lambda 7, c'est le texte 1 que nous allons regarder maintenant. paragraphe. Et puis vous verrez que le second paragraphe permettra d'aboutir à un deuxième type de preuve. Est-ce qu'il est possible qu'il en soit ainsi, et que si l'on était balancé le monde qui enlève la nuit, la confusion universelle et du monnaie, ces difficultés peuvent être considérées comme résolues. Ça, c'est la phrase de France. Il existe donc quelque chose, toujours mu d'un mouvement sans arrêt, et ce mouvement est le mouvement circulaire. Cela est évident, non seulement en vertu du raisonnement, mais en fait. Il s'ensuit que le premier ciel doit être éternel, il y a donc aussi quelque chose qui le meut, et puisque ce qui est mu et meut est un moyen terme, il doit y avoir un extrême qui meut sans être mu, et qui est éternel, substance et acte pur. Alors c'est cette expression qui m'intéresse, mais souligner, qui meut sans être mu. On va retenir dans l'histoire de la philosophie le moteur non mu, le moteur auto-mouvant, le moteur qui se meut par lui-même, etc. Ces expressions sont possibles. On est tout proche, je le dis à mes amis, de ce qu'on appelle la causa sui, la cause de soi, donc c'est tout à fait analogue. Alors le raisonnement ici est un raisonnement par le mouvement, qui est analogue aux quelques expressions vulgarisées que j'ai prises tout à l'heure. De quoi s'agit-il ? Aristote fait un constat, il n'a rien d'original, c'est qu'il y a bien une chose sur laquelle on peut se mettre d'accord à partir de l'observation la plus immédiate, c'est que tout bouge. En tout cas, il y a du mouvement partout. Alors, peut-être que tout ne bougera pas finalement, mais en tout cas, le monde naturel que nous connaissons, que nous éprouvons, qui nous entoure, est un monde de mouvements, avec des mouvements distincts, des mouvements plus ou moins rapides, etc., etc. On peut faire toute une typologie. Aristote ne s'en prive pas, mais le mouvement est partout. Et il se dit la chose suivante. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est en mouvement ? Alors, au moment où vous êtes en train d'écrire, ou quand vous m'écoutez et que votre cerveau agite, eh bien, il y a un mouvement qui est provoqué, en partie, en tout cas, par mon discours. Donc, je suis une des causes, il y en a d'autres, de votre mouvement présent. Mais, plus généralement, qu'est-ce qui, moi, me bouge, ou quelles sont toutes les autres causes qui interviennent dans le geste d'écrire ou la compréhension ? Eh bien, ce sont tout un tas de phénomènes que les scientifiques vont décrire par la causalité, qui font que si votre main bouge, c'est que votre bras bouge, c'est que votre cerveau a donné une impulsion, c'est qu'il a les moyens de le faire, parce que vous avez tout un tas de connexions, etc., encore, que vous avez nourri. Nourriture qui elle-même est née des fruits de la nature, qui est une histoire de croissance, qui elle-même a été possible parce qu'un mouvement a été engendré par le soleil, par la terre, par l'air, par le cycle de l'eau, etc. Question, qu'est-ce qui entraîne le soleil, la terre, l'eau, etc. Donc je ne vais pas faire tout le réseau possible. Mais vous voyez bien qu'on peut décrire l'ensemble de la nature par une suite de mouvements, et que, comme la poule et l'œuf, comme les parents des parents de tout à l'heure, eh bien la question c'est, mais à la fin, ou plutôt au début, c'est-à-dire à la fin de notre remontée logique, qu'est-ce qui a bougé l'ensemble des mouvements ? Parce qu'on sent bien que c'est une des propositions fondamentales d'Aristote dans la physique, c'est qu'un mouvement naît toujours d'un autre mouvement. C'est assez intuitif, je crois. Les seules choses qui y échapperont, ce seront les choses sans mouvement, mais on ne peut pas les voir dans le cadre de la physique, en tout cas, pas au sens qu'on entend aujourd'hui. Alors, voyez la difficulté qui est la nôtre. Il faut quelque chose qui soit au départ de cette chaîne de mouvement. Mais c'est paradoxal parce que si vous mettez quelque chose au départ qui est en mouvement et que vous appliquez la thèse que tout mouvement naît du mouvement, et là, vous retrouvez l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce mouvement soit lui-même issu d'un mouvement. Donc si vous aviez la presque solution en disant bah, « ça doit être Dieu qui entraîne tout ça », vous pouvez vous en sortir qu'en donnant une définition très particulière à Dieu. Et c'est ce que fait ici Aristote en disant alors, c'est un moteur, on comprend pourquoi, puisque c'est ce qui va mettre en route la chaîne des mouvements qui vont suivre. Mais c'est un moteur non mu, parce qu'il faut qu'il ne soit pas mu par un autre, sinon ce ne serait pas lui le moteur. Un moteur de moteur. Donc. Et en même temps, vous voyez la difficulté, un moteur non mu, pour être éternellement le moteur de toute chose, parce qu'il ne va pas s'arrêter en cours de route. Enfin, si ce moteur avait des ratés, on serait embêté. Donc, il faut un moteur non mu qui soit éternellement mouvant. Or, qu'y a-t-il d'éternel dans le mouvement ? C'est presque de notions contradictoires. La physique parle de mouvement perpétuel, par exemple. Alors, c'est intéressant, on demande aucun mouvement perpétuel sur Terre, mais sauf peut-être le cycle de la nature, même pas, puisqu'on donne une naissance à la Terre. Les seuls exemples que donnent les astrophysiciens aujourd'hui, ce sont les mouvements des planètes. Enfin, c'est pas parti pour s'arrêter. Et en fait, on n'est pas sûr. Parce qu'il suffit qu'un trou noir se balade par là, et voilà. Alors vous me direz, oui, mais le mouvement du trou noir, etc. Bon. Alors d'accord, si on prend le mouvement de l'ensemble de l'univers, il ne sera pas dès lors le mouvement d'une seule chose. Donc, on n'est plus dans ce que les physiciens appellent le mouvement perpétuel. C'est quantité globale de mouvement. Et après, on va dire, oui, mais ça pourrait être un mouvement non local, donc ça va être de l'énergie. On va dire, alors c'est quoi l'énergie? C'est le truc, là. Bon, ça se mesure, ça a des effets. Bon, bref, vous sentez bien que ces réponses de physiciens nous reconduisent vers des interrogations métaphysiques, ne leur en déplaise, en tout cas à certains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre mouvement, notre moteur non mu, doit être éternellement moteur non mu, c'est-à-dire concilier non seulement un moteur qui ne soit mu par aucun autre, qui va au-delà de nos observations naturelles, mais concilier le mouvement et l'éternité. Ou le mouvement et l'immobilité, si vous voulez. D'où cet ajout d'Aristote, il est substance et acte pur. Alors, c'est contradictoire, hein, mais Aristote assume. Substance, même si vous ne connaissez pas ce terme dans la métaphysique, c'est facile, c'est ce qui subsiste. Et dans la physique et surtout dans la métaphysique, Aristote dira, c'est ce qui dans tout mouvement ne bouge pas. Alors, c'est justement ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça que je disais dans l'observation immédiate, tout bouge. Mais sans rentrer dans le détail, pour dire que quelque chose a bougé, pour dire que c'est bien cette même chose qui a bougé de tel endroit à tel endroit, il faut que vous puissiez dire que c'est cette même chose qui a bougé de tel endroit à tel endroit. Autrement dit, dans tout mouvement que vous décrivez, vous décrivez aussi quelque chose qui, lui, n'a jamais bougé. Si vous dépassez votre voiture, il faut bien que ça reste la même voiture du début à la fin. Sinon, on a un problème. Justement. On dira que la voiture n'a pas subsisté. Donc, il n'y a pas de substance. Bon, ouais. C'est pareil pour tout mouvement en général. Donc, il y a quelque chose qui se voit, qui est toujours en mouvement, et c'est ce mouvement-là qui évoque Aristote au départ. Mais il y a aussi quelque chose qui ne se voit pas, et qui est nécessaire, du point de vue logique en tout cas, au mouvement. Comme immobile. Donc, on a déjà un peu les deux dans la nature. Mais c'est pas si immédiat qu'on peut le croire. Et Dieu, puisque c'est ça, son moteur non mu, c'est le nom qu'on lui donne à ce moment-là, eh bien, serait cette immobilité. Et c'est bien nécessaire pour Dieu d'être immobile et éternel. Enfin, sinon, ça voudrait dire que bah, Dieu, quand il était petit, bon, puis alors après, il a été ado, il a fait sa crise, puis alors après, il a grandi, il a eu son acte, tout ça. Bon. Mais ça ne marche pas. Bon. À la rigueur, pour un Dieu qui s'incarnerait, mais il ne s'incarne pas au point de perdre sa perfection, etc. Enfin, voilà, là, on est dans le cadre d'une religion particulière, et encore, on présente ça comme un mystère. Donc, si on veut vraiment mettre ça parfaitement au point du point de vue rationnel et du principe de la cohérence, eh bien, il faudra dire que ce Dieu, pour être vraiment l'origine de toutes les choses, doit rester cette origine, et ne doit pas quitter son poste. Donc, vous voyez que le concept auquel on aboutit est un concept à la fois très nécessaire par le raisonnement qui est celui d'Aristote, mais très délicat finalement à manipuler. Moteur non mu, éternel qui meut, d'où cet ajout après substance, un acte pur. Alors, un acte, pour moi, c'est agir, c'est faire bouger les choses, et c'est ce que fait Dieu. Mais acte pur ici veut dire, ça peut communiquer un mouvement, tout en ayant déjà atteint le sommet de ce qu'il est, c'est-à-dire ne plus bouger lui-même. C'est un petit peu délicat. Retenez en tout cas que cette première preuve de l'existence de Dieu, qu'on ne va plus quitter au moins, sauf par exception, jusqu'à Descartes, qu'on a remanié, pour la réinterpréter, en tout cas qui va venir presque 2000 ans, eh bien, cette preuve contient une difficulté, mais qui semble assumée. Alors, Aristote ne dit à aucun moment « on ne comprend pas ce qu'on écrit, je ne comprends pas ce que j'écris quand je dis moteur non mu ». Il ne dit pas les choses comme ça. Mais il nous laisse déjà éprouver la difficulté de cette notion. Autrement dit, à la faveur des philosophes, vous voyez qu'il y a déjà une forme au moins implicite de réserve, d'humilité, qui consiste à dire bah, « ce concept est un concept très délicat, mais on ne peut pas faire autrement pour expliquer le monde tel qu'on l'observe ». Alors, est-ce que ça suffit pour dire que Dieu existe pour Aristote, oui, au sens où on lui donne une nature, donc on a compris qu'il avait une nature qui n'est pas plus du même style que la nôtre. On peut essayer de remonter de notre nature ou dans ce qu'on observe dans notre monde pour essayer de comprendre quelle est sa nature à lui. Mais ce n'est pas n'importe quelle nature. C'est une nature, j'ai dit contradictoire, c'est un mot un peu dur pour le texte d'Aristote, mais en tout cas, une nature beaucoup plus complexe que les êtres, entre guillemets, simples auxquels nous sommes habitués. Et quant à son existence, eh bien c'est peut-être finalement quelque chose de plus fort dans cette argumentation que sa nature. Car pour dire sa nature, on prend nos concepts et on les radicalise, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec. Mais il y a au moins une chose dont on est sûr, c'est que nous ne serions pas là, le monde ne serait pas en mouvement, le monde ne serait pas ce qu'il est, si personne ne l'avait mis en route. Voilà. Donc autant les deux questions, nature et existence, sont toujours liées dans ce débat-là, autant finalement on est peut-être plus convaincu au terme de cette première argumentation par l'existence de Dieu que par la définition qu'en donne Aristote. Alors, cette preuve a sa suite, c'est la suite de ce même texte justement, au sens où, pour vous exposer cette preuve, alors, j'ai commencé par donner des exemples de la vie courante, mais je vais appuyer sur une représentation qui est commune, partagée, qui est la mienne aussi, à savoir que pour nous, les causes, eh ben, ce sont des causes qui sont avant les effets. Toute la physique est organisée autour de ça, et puis même notre vie quotidienne s'organise autour de l'idée que la cause d'une chose, elle vient avant l'effet que l'on a observé, que l'on comptait en retirer. Mais nous dit Aristote, il y a sans doute plus qu'une seule cause, et Aristote va faire ce que les philosophes ont fait et feront jusque Descartes au moins, à savoir envisager la cause finale. Alors, celle-ci, nous n'y sommes plus du tout habitués. Parce que la cause finale, c'est une cause qui serait après les faits. C'est bizarre, hein ? Pour nous, rechercher les causes, c'est aller les chercher avant. Celle-ci serait plutôt après, ou en tout cas, d'une certaine manière, après son effet. Alors, oui, si elle est après les faits, c'est qu'elle n'est pas encore. Comment peut-elle provoquer un effet ? Enfin, on sent que c'est très loin de nos représentations quotidiennes. On va partir, comme le fait d'ailleurs Aristote, au Delta, de l'anthropologie, de la vie quotidienne. Vous avez pris le bus, le métro, la voiture, vous êtes venu à pied ce matin, vous l'avez fait dans un certain but, venir ici écouter une conférence. Bon, eh bien ça veut dire que votre intention a motivé votre action, et que votre action était en cours de réalisation, c'est-à-dire que vous avanciez géographiquement vers votre but, avant même que ce but ne soit réalisé. Et pourtant, c'était bien ce but qui vous tirait, si je puis dire, vers cet endroit. Alors vous allez me dire, oui, mais mon intention, elle était là avant. C'est vrai, ce sera la limite de cette comparaison. Votre intention était là avant. Et on pourrait dire, et les psychologues le font, ben voilà, on a une cause avant, produit un effet après. Mais qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, pour des objets, pour des êtres naturels, où il n'y a pas de volonté? Est-ce que je peux dire, par exemple, que c'est l'intention du fœtus, en ventre de sa mère, de se développer? Il a pris une notice du corps parfait, tous les jours, il tasse, et puis il fait son travail. Ce serait l'intention de qui? Des premières cellules? Du corps de la mère? Déjà, être un médecin, et puis en plus, un médecin sacrément avancé par rapport à la médecine actuelle. Donc, à qui revient l'intention, en l'occurrence? Alors, la réponse actuelle, c'est de dire, mais c'est dans notre programme génétique, tout ça, ce sont des causes mécaniques, etc. Bon, c'est une option possible. Mais ça ne voudra dès lors que pour la biologie, et encore, il faudra en discuter longtemps. Parce que qu'est-ce que vous allez faire pour des êtres qui ne sont pas vivants? Il n'y a pas de code génétique en toute chose. Comment vous allez expliquer que les planètes soient si bien ordonnées, que tout cela soit en permanence? Bref, qu'il y a un ordre dans l'univers. Comme si quelqu'un avait créé un ordre parfait. Je dis bien comme si, hein, je n'en fais pas une preuve. Là-dessus, la physique va encore trouver une alternative. Toujours à l'affût de ramener les causes finales aux causes efficientes, c'est-à-dire aux causes avant, si vous préférez. Et elle va dire, mais c'est normal, ce sont les lois qui sont dans la matière qui expliquent cela. Et en fait, la cosmologie actuelle tente à avouer sa limite, parce que, alors, il y a énormément de scénarios sur la gestation de l'univers. Le Big Bang est la plus célèbre, mais maintenant, vous avez des alternatives. Et il y a quand même un, consensus qui pourrait évidemment être révisé d'ici quelques années, mais qui revient à dire que déjà le Big Bang, on l'explique pas, là on revient à notre moteur Mu tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, et puis surtout, qu'est-ce qui fait que les lois de la matière ont été celles qu'elles sont devenues ou qu'elles sont aujourd'hui. Alors vous avez plusieurs options. Soit elles sont éternelles, c'est-à-dire la matière a toujours été comme ça. Mais c'est mal compatible avec la théorie du Big Bang où on avoue que les atomes, les électrons, tout ça n'était pas bien distinct au début. C'était une sorte de gros chaos. Voilà. On est dans une tête d'épingle. Enfin bref, ça ne marche pas jusqu'au bout. Et puis, deuxième option, ça consiste à dire que cela s'est créé après. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas trop de lois, puis un certain agencement de la matière a fait que les lois sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et dès lors, la question, c'est pourquoi ces lois-là se sont mises en place. Et la grande réponse à la mode, depuis au moins un siècle, c'est de dire c'est le hasard. Ce qui n'a rien à voir, je ne sais pas. C'est moyennement satisfaisant. Et il y a une troisième option, que certains physiciens vont envisager, mais dont ils diront que c'est la physique qui permet d'affirmer, c'est que c'est comme si quelqu'un avait mis en place les choses de cette manière-là, parce que c'est la meilleure manière, ou parce que c'est la manière la plus optimale, ou parce que c'est tellement bien fait, qu'on se demande comment tout cela a pu naître par hasard. Vous avez cet étonnement-là hein, dans la vie quotidienne, quand vous observez ne serait-ce que le corps humain, quand on vous explique que tel organe fonctionne de telle façon, ou que pour réparer tel organe, il va falloir rajouter telle molécule, etc. Il y a une conclusion récurrente qui est qu'est-ce que c'est bien fait quand même ? Alors, quelle belle machine que le corps. Mais c'est un élément parmi tant d'éléments qui sont eux-mêmes bien faits, et cela jusqu'à l'univers entier. Et donc cet argument de l'ordre, qu'on va appeler la preuve, alors il y a plusieurs noms, mais vous pouvez l'appeler téléologique, ou physico-téléologique, ou finaliste, ou preuve par l'ordre, donc il y a pas mal de dénominations. En fait, tout ça veut dire la même chose, ça veut dire qu'on tient compte de la finalité de l'univers, de l'idée qu'il aurait été fait en vue de quelque chose, ou soyons plus précis, par quelqu'un qui aurait eu l'intention de l'ordonner comme cela. Vous êtes d'accord pour dire qu'il est assez rare que, en faisant n'importe quoi, on arrive à quelque chose d'ordonné. C'est possible. Il y a ce fameux exemple récurrent, vous donnez toutes les lettres de l'alphabet, il y a un très grand nombre à un singe, il y a une probabilité réelle dans le film qu'en les jetant par hasard en l'air, ces lettres retombent et retombent dans l'ordre qui serait l'écriture de la Bible. C'est possible. Hein, la physique quantique nous apprend qu'on peut faire tenir un éléphant par la queue accroché à une pâquerette au bord d'une falaise. C'est possible. Donc, du point de vue mathématique, c'est possible. À force de faire ça sur ma table, je vais peut-être bénéficier de l'effet tunnel et ma main va finir par passer à travers sans briser la table. C'est possible. Donc oui, il y a une probabilité qui n'est pas nulle, mais qui est tellement faible, nous disent les physiciens et de concert avec les philosophes, qu'il y a assez peu de chances que ce monde soit le monde du hasard. Physiciens qui reconnaissent d'ailleurs que le hasard n'est que la mesure de notre ignorance et n'a jamais été une réponse satisfaisante. Alors c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce même texte. C'est bien ainsi que meuvent le désirable et l'intelligible. Ils meuvent sans être lus. Le suprême désirable, autant des dieux, est identique au suprême intelligible. En effet, l'objet désir est le bien apparent, et l'objet premier de la volonté raisonnable est le bien réel. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne, donc elle nous semble bonne parce que nous la désirons. Petit clin d'œil au cagneux, Spinoza inversera la formule. Alors, pourquoi ce rapport au désir ? Parce que, en réfléchissant sur les causes finales, Aristote se dit, bon, je suis venu ce matin pour me rendre au lycée Sainte-Marie, je vais à la conférence pour apprendre des choses, voir des anciens copains, etc. Je vais mettre toutes les finalités que vous voulez. Je vois mes anciens copains, j'apprends des choses, où je m'ennuie, etc. Et ça ira mieux tout à l'heure. Bref, dans tous les cas, je vise quand même quelque chose en bout de chaîne, qui va bien au-delà évidemment de cette matinée, et qu'on peut rassembler sous un mot bien pratique et bien courant, qui s'appelle le bonheur. C'est-à-dire, au terme de toutes mes actions, mon but c'est quand même d'être heureux. Autrement dit, je vise quelque chose parce que c'est bon pour moi, je désire parce que c'est bon, et ce bon ultime, ce bien ultime qui est au terme de toutes mes visées de bonheur locaux, si je puis dire, eh bien, ce serait le suprême désirable. C'est-à-dire, oui, dans ma vie tous les jours, je peux dire « je veux être heureux au point, et mon bonheur, c'est dans la vie, et c'est que sur cette terre, etc. » Je peux bien sûr raisonner comme cela. Mais pour arriver, ne serait-ce qu'à l'idée qu'il y a un bonheur qui va me combler, c'est-à-dire une manière d'être qui fait que voilà, c'est bon, maintenant je suis heureux, j'ai plus qu'à faire en sorte de ne pas devenir malheureux, mais j'y suis. Et c'est possible. Et Aristote, on a cessé de le dire, on n'est pas du tout dans une philosophie du désespoir. Eh bien, il faut que je sois parvenu à l'idée qu'il y a un terme, c'est-à-dire que tous les biens que je vise localement dans ma vie visent un bien qui s'appelle bonheur pour moi, mais que si je mets l'équivalent du bonheur de chaque être, si je les mets tous les uns à côté des autres, le bonheur, entre guillemets, du chien, donc je ne prends pas conscience aussi nettement, le bonheur de la pierre, ah oui, ça c'est moins évident, mais la pierre a une manière d'être pierre ou pas, ce qui fait que quand elle n'est pas à l'aise dans sa vie de pierre, elle se brise. Alors, vous sentez bien qu'on peut trouver à chaque chose une situation qui fait qu'elle est accomplie en tant qu'elle est elle-même, mais que pour que tout cela soit accompli, il faut que ce soit coordonné, et surtout, entre-temps, est née l'idée que chaque finalité peut renvoyer à une plus grande, et dans l'ordre du désir, c'est ce qu'on appellerait l'absolu. C'est-à-dire, ce qui désirait n'appellerait plus de désir supplémentaire. Pour faire référence à la matinée philosophique précédente, Laurence évoquait tous ces désirs qui se répètent entretenus par une société de consommation et qui sont fabriqués de telle sorte qu'ils finissent tous par être insatisfaisants, plus ou moins long terme, mais il faut que, pour que vous consommiez, que vos désirs ne soient satisfaisants qu'en apparence ou sur le court terme, le capitalisme ne vous dira jamais aller vers un désir auquel ne succédera aucun de vos désirs. Et pourtant, c'est une idée qui naît dans la métaphysique, c'est beaucoup moins commercialisable, évidemment, à savoir que vous ferez des économies en allant vers cela, puisque après, vous n'aurez plus rien à acheter. Eh bien, ce suprême désirable, je vous l'ai présenté du point de vue du désir, je vous l'ai présenté aussi du point de vue de l'ordre, ce sont deux manières d'aller vers la même pomme, revient à dire que ce monde a été organisé par quelque chose, tellement il est bien organisé, et tellement l'expérience du désir nous amène à poser la question d'un suprême désirable. Et bien voilà notre deuxième preuve, qui est finalement très analogue à la preuve par les causes efficientes, par les causes d'avant, puisque c'est symétrique, ce sont les causes d'après, même si pour nous c'est une symétrie un petit peu plus douloureuse, mais le raisonnement est presque quasiment le même. Alors, si je reprends les questions que j'ai posées initialement, on a envie de dire que tout va plutôt bien pour nous. Parce que la raison humaine, alors celle d'Aristote surtout, nous, par la suite, c'est pas immédiat de parvenir à cette preuve-là, montre quand même sa force, c'est-à-dire que sans le secours de la religion, en se contentant de la pure raison, c'est-à-dire indépendamment de l'opinion, des modes, des tendances, etc., etc., eh bien, on peut produire un raisonnement qui tienne et qui permette de conclure, oui, Dieu existe, même s'il faut reconnaître qu'il existe en vertu d'une nature qui pour nous est un peu difficile à comprendre, mais que l'on comprend suffisamment pour ne pas en parler comme d'un mystère. Et comme cela ne suffit pas, on peut même rajouter une troisième preuve à ces deux premières, c'est ce qu'on appelle la preuve par la perfection, ou encore d'un mot horrible, preuve ontologique. Alors je vais vous présenter cette troisième preuve de la manière la plus classique, c'est-à-dire la plus simplifiée, c'est-à-dire en vérité la plus fausse. Je vais commencer comme ça, puis après je donnerai une version restaurée. C'est une preuve qu'on doit au départ à Saint Anselme, donc un moine du Moyen-Âge qui a écrit le Proslogion et qui se met dans un dialogue fictif avec un païen et qui essaie de le convaincre que Dieu existe. Alors, voilà comment la tradition, et surtout à partir de Descartes, a compris cet argument. On va prendre le texte, non, je vais d'abord vous le présenter, puis on va prendre le texte après. Parlons de Dieu. Alors, le païen n'a pas de problème avec ça. Je veux dire, bah, je peux te parler de Dieu, d'ailleurs, je peux te parler d'un bouton à 5 pattes, je peux te parler d'un triangle rond, je peux te parler d'un carré à 5 côtés, je peux te parler d'un centaure, je peux te parler de Prométhée. Pour moi, tout ça, ce sont des fictions. Donc, j'ai aucun problème avec ce dialogue, puisque parler de Dieu, ça rendra pour moi à parler d'un roman, d'un film, bref, de quelque chose qui est fictif. Alors, Saint Anselme, qui est le dialoguant, dit alors, eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette fiction? Parce que chaque fiction se distingue. La fiction, d'un dieu grec, Prométhée, par exemple, va se distinguer de la fiction d'un autre dieu grec, que serait Zeus. Alors, on a des fictions distinctes. Dans la mythologie, ils ont leur caractère, leurs actions, leur histoire. Il faut que, même dans la fiction, il y a de la distinction. Tout n'est pas fictif en général. Il y a des personnages qu'on peut décrire, qu'on peut créer. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière cette fiction de Dieu? Alors, Saint Anselme veut évidemment un Dieu qui ressemble beaucoup au Dieu chrétien, puisque son but est de montrer que c'est là le seul et vrai Dieu. Et il dit, bah, tu es d'accord que pour qu'on puisse dire de Dieu qu'il est divin, il faut que ce soit quand même quelqu'un de bien. Ah oui, bah, s'il est pire que moi, je ne peux pas prétendre au titre de Dieu. Et non seulement il est quelqu'un de bien, mais il est vraiment quelqu'un de bien, le meilleur, disons-le. Alors, meilleur dans quel ordre? Bah, moralement, déjà, quoi qu'il fasse de bêtises, intellectuellement, quoi qu'il se trompe, dans son existence aussi. Par exemple, il faudrait qu'il soit immortel, ce serait mieux quand même, parce que c'est pas pratique d'être mortel. Faudrait qu'il ait jamais de maladie. Faudrait qu'il ne soit pas dépendant d'un père, parce que si vous êtes né de quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes dépendant, donc pour être très 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 bien, tout de suite, t'as un problème. Donc il faut qu'il soit indépendant, éternel, omniscient, omnipotent, c'est-à-dire qu'il soit tout ce qu'on connaît en beaucoup mieux, autrement dit qu'il soit parfait. Et l'interlocuteur dit, bah oui, d'accord, on va dire que c'est là la fiction de Dieu. J'ai des fictions de plein de choses dans la tête, la fiction d'Alien, par exemple, un monstre très méchant, qui a tous mangé. Bon. À côté de ça, je mets une autre fiction qui s'appelle Un être parfait. Pour moi, c'est une fiction. Alors jusque-là, tout va bien. Le païen dit, bah, moi, ça ne me pose pas de problème d'en parler. Et le moine dit, bah, ça tombe bien, parce que ce concept est relativement proche du dieu des chrétiens, donc tout le monde est content. Ce dont ne se doute pas notre païen, c'est que ce faisant, il a déjà perdu la partie. Pourquoi? Eh bien parce que, en reconnaissant, on peut concevoir, on n'en est qu'à ce stade-là, on imagine, on conçoit, pour être plus précis, en concevant un être parfait, sur tous les plans, il ne faut pas la moindre exception à cette perfection, eh bien on lui a déjà accordé quelque chose qu'on ne souhaitait pas lui accorder. Autrement dit, oui, toutes les fictions qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'étaient pas Dieu, sont toutes des fictions. Mais il y a une fiction exceptionnelle, c'est la fiction de la perfection ultime. Pourquoi? Parce que quand vous dites un être fictif parfait, vous dites un être fictif qui a aussi la perfection de l'existence, c'est-à-dire qui ne la tient de rien d'autre. Alors vous pouvez dire, bah, il ne la tient pas du tout, dans ce cas-là, une fiction. Et Saint Anselme me dit, oui, mais un être parfait qui ne serait qu'un projet n'est pas encore assez parfait. Vous préférez la réalité d'un bonheur réalisé que le projet d'être heureux. Évidemment, on est tous pareils. Eh bien, pour Dieu, c'est pareil. Si vous dites qu'il est parfait, il est parfait dans tous les ordres, dont celui de l'existence, dont celui de l'existence réalisée. Autrement dit, vous venez de dire, je veux bien penser la fiction d'un être fictif qui serait parfait sur tous les plans, c'est-à-dire qu'il serait parfait aussi sur le plan d'existence, c'est-à-dire qu'il serait parfait aussi parce qu'il possède l'existence, trop tard. Vous venez de reconnaître que votre fiction n'était pas une fiction, comme les personnages de bande dessinée. Alors ce raisonnement ne marche pas pour toutes les autres fictions. Il suppose une exception dans la détermination de cette fiction. Vous ne pourrez pas appliquer le même raisonnement pour Superman ou pour Zorro, enfin, ça ne marche pas. Vous ne pouvez appliquer que pour l'être que vous avez d'emblée défini comme parfait. Même un super-héros, il a beau être super, il a toujours un talon d'Achille, et ce talon d'Achille suffira à dire qu'il n'est pas aussi parfait que cela, et s'il n'est pas aussi parfait que cela, mon argument ne vaut pas pour lui. L'argument de Saint Anselme ne vaut que pour un être qu'on a défini comme parfait. Alors, souvent, l'objection qu'on fait à ce moment-là, c'est de dire « Oui, mais vous avez commencé par poser un être parfait. » On ne l'a pas posé, hein. On a juste dit, est-ce que tu es capable de concevoir un être parfait? Autrement dit, on a interrogé l'autre sur sa capacité intellectuelle. On lui a pas dit, est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? On lui dit, est-ce que tu es capable de concevoir cela? Eh bien, le simple fait de concevoir, nous dit Saint Anselme, c'est déjà l'aveu d'une démonstration qui prouve qu'il existe. Et dans la tradition, on le ramène à ces trois propositions-là. Soit un être, un concept, pour être plus précis, défini par sa perfection. Or, la perfection inclut l'existence, donc cet être parfait existe. Voilà la manière de résumer cet argument. On va prendre le texte 2, s'il vous plaît. Donc c'est Saint Anselme, ou en tout cas celui qui le représente dans son ouvrage, s'adressant aux non-croyants. Nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien de plus grand ne puisse être pensé. Prenez croire ici au sens, on fait l'hypothèse que est-ce qu'une telle nature n'existe pas parce que l'insensé a dit en son cœur « Dieu n'existe pas ». Mais du moins cet insensé, en entendant ce que je dis, autrement dit, il a compris l'idée d'un être parfait. Quelque chose de tel que rien de plus grand ne puisse être pensé, comprend ce qu'il entend. Et ce qu'il comprend est dans son intelligence, même s'il ne comprend pas que cette chose existe, autrement dit, même s'il ne comprend pas encore. Autre chose est d'être dans l'intelligence, autre chose d'exister. Autrement dit, le païen qui entend ce concept d'un être parfait fait bien une distinction au début. Non, mais d'accord, j'imagine, mais c'est juste une imagination. Et certes, l'être qui est tel que rien de plus grand ne puisse être pensé ne peut être dans la seule intelligence. Même, en effet, s'il est dans la seule intelligence, on peut imaginer un être comme lui qui existe aussi dans la réalité et qui est donc plus grand que lui. Si donc il était dans la seule intelligence, l'être qui est tel que rien de plus grand ne puisse être pensé serait tel que quelque chose de plus grand puisse être pensé. Autrement dit, on a piégé le païen ici. Parce que c'est presque. Ça pourrait ressembler à la rhétorique, mais il y a derrière cela un fond logique. À savoir, quand je dis à quelqu'un, est-ce que tu comprends ce que je veux dire, ne serait-ce que par fierté, oui, c'est bon. Alors donc, tu es croyant. Ah non, bah, si, tu viens de dire que tu comprenais. Alors, c'est pas pour n'importe quel concept ici, c'est est-ce que tu comprends ce que je veux dire par une fiction qui serait un être parfait ? Oui, donc tu y crois. Non, bah pourtant tu viens de dire que tu comprenais. Oui, donc tu as compris un être dont l'existence fait partie des perfections. Oui, donc tu reconnais qu'il existe. Oui. Trop tard, dit Saint Anselme. Alors, je vous ai fait un Saint Anselme bien traditionnel, scolaire, etc. Je vais vous faire un Saint Anselme un petit peu plus précis dans ce deuxième temps de cette présentation de preuves. En réalité, Saint Anselme est beaucoup plus humble qu'on a voulu le faire croire. C'est Descartes, une tradition qui a fait de lui un hyper-rationaliste qui voulait sortir parmi d'autres, hein, de l'église, de son carcan, de mystère, etc. Bon, il a dû s'inspirer peut-être de ce projet s'il l'avait observé autour de lui, mais ça n'était pas exactement le sien. Pourquoi ? Parce que dans sa preuve, en fait, Saint Anselme, à aucun moment, n'imagine que Dieu n'existe pas. Tout simplement parce que il dit quoi ? Écoute le nom que je vais prononcer. Écoute la définition que je vais donner. Or, question, pour le païen, d'où vient ce nom ? À la rigueur, on peut dire, il vient du moine qui lui a dit « Écoute la définition que je vais donner ». D'accord. Mais on retrouve notre première difficulté de ce matin. Moi, en tant que moine Saint Anselme, qui m'a donné ce nom-là ? Alors, c'est d'autres moines, mes parents, etc. On remonte. Au tout début, qui m'a donné cette idée ? Vous n'avez que deux options. Soit c'est le Dieu lui-même qui est descendu et qui m'a donné l'idée. Bon, alors là, évidemment, c'est un peu discutable, du point de vue philosophique en tout cas. Soit vous dites, eh ben, j'y ai pensé tout seul. Bon, ok, c'est moi, je suis très intelligent, je pense à la perfection. Question, comment parvenir de soi-même à l'idée d'un être parfait ? Sachant qu'autour de moi, ce n'est pas du tout méchant ce que je vais dire, il y a surtout des gens imparfaits. Voilà. Et que je le suis moi-même. Et que la vie n'est pas toujours bien faite, et qu'on va tous mourir, et que la Terre va sans doute exploser un jour, et plus et tout, qu'il y a des maladies, bref, tout ça fait que la perfection, je ne la vois jamais. Il y a même une situation encore pire pour l'esprit humain, ce sont les mathématiques, où on parle en permanence que de concepts finissent cette fois, hein, triangles, des carrés, des cercles, parfaits, et on ne les a jamais vus tels quels dans la réalité. On n'a jamais réussi à dessiner une droite parfaite, un cercle parfait. La droite parfaite, elle devrait être jamais arrêtée, vous voyez, on a déjà un problème. Il faudrait s'étendre en même temps que l'univers pour poursuivre son dessin, puis comme on serait en train de dessiner, ben, on dirait, attendez, j'ai pas fini, et on mourrait en train de dessiner sa droite. Bref, il y a dans l'esprit humain de drôles d'idées comme ça, Donc on peut se demander d'où elles nous viennent. Elles nous viennent pas vraiment d'expérience, bon, il y a tout un débat, je ne rentre pas dedans, mais en tout cas, à mon sens, c'est une argumentation empirique qui ne tient pas. Et il est difficile pour nous de dire qu'elles nous viennent de notre vie toute simple. Alors, pour l'idée de Dieu, c'est encore pire, parce que ce n'est pas seulement l'idée d'un être fini, parfait, dans sa finitude, comme un triangle, mais cette fois, c'est un être qui a toutes les perfections, dont d'aucuns diront qu'il est infini, pour cette raison. Eh bien, Saint Anselme, en fait, veut dire que tu comprends le nom, mais tu le comprends parce que tu possédais déjà l'idée, et que si tu te demandes d'où vient cette idée, tu verras que c'est déjà la preuve que tu avais trouvé ce que nous étions en train de chercher ensemble. En fait, l'argument de Saint Anselme, si on prend le texte du Proslogion lui-même, eh bien, c'est une explicitation d'une idée innée. C'est même pas « je pars de rien, je fabrique un concept tout en étant athée, et j'arrive, malgré moi, à la preuve que Dieu existe », mais c'est l'idée que je n'ai qu'à dérouler un concept, et la vraie preuve de cette existence, c'est que le concept était déjà en moi. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Eh bien, parce que tout d'abord, la tradition l'a compris de manière un petit peu simplifiée, dans un but précis, je crois, et surtout parce que, au terme de cette troisième preuve, qui est peut-être la plus belle, au sens où c'est la plus simple, la plus logique, celle que la tradition a retenue comme la possibilité de penser l'existence à partir de notre seul entendement, c'est-à-dire que je peux, sans avoir vu, affirmer qu'un être existe, donc on est très fort, la plus puissante, celle qui marquerait la plus grande force de l'esprit humain, eh bien, elle était d'emblée, dans le cahier des charges de Saint Anselme, beaucoup plus humble qu'on ne le croyait. Et ce qui fait que les conclusions auxquelles on parvient au terme de la présentation de ces preuves sont déjà affectées d'un coefficient d'humilité. Pourquoi ? Si je prends les deux premières preuves, ou la première version de la preuve ontologique de Saint Anselme, eh bien je dis oui, je reprends mes questions initiales, Dieu est un objet de preuve, l'esprit humain peut aller très loin, la philosophie n'a pas besoin de la religion, et si en plus la philosophie donne des preuves absolues, dans les termes actuels en tout cas, par la définition de la philosophie, c'est même plus que de la philosophie, c'est de la science, Dieu existe, non pas je l'ai rencontré, mais je l'ai démontré, le film devrait s'arrêter là. Sauf que Saint Anselme, alors qu'il est capable de produire ce genre de raisonnement, alors qu'il est assez bien équipé intellectuellement pour aller jusque-là, nous fait déjà sentir que les choses ne sont pas aussi maîtrisables, domesticables par l'intellect humain qu'on pourrait le croire. Humilité que la tradition a oubliée, mais tradition finalement rattrapée par sa propre histoire, car le premier étonnement au sujet de cette tradition, c'est qu'il y a autant de preuves de l'existence de Dieu que de réfutations des preuves de l'existence de Dieu. Et si vous regardez bien, et c'est là-dessus que la plupart des réfutations vont s'appuyer, si vous regardez bien la manière dont on a raisonné dans ces trois preuves, par les causes antérieures, par les ou la cause postérieure, et par l'idée de perfection, par l'idée d'un être parfait, eh bien, on est toujours parti d'une référence humaine. Ma manière à moi de penser qu'il y a une poule qui serait à la fois son propre œuf et un œuf qui serait à la fois sa propre poule, c'est d'avoir regardé la basse-cour. Ma progression qui a consisté à penser qu'il doit bien y avoir un absolu dans l'ordre du désir, c'est d'avoir observé le cheminement de mon propre désir. Et ma progression intellectuelle qui m'a permis de dire qu'un être parfait existe, c'est que je suis parti de l'idée que j'avais en moi de la perfection. Bref, dans tous les cas, on est parti de nous-mêmes. Vous me direz, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? Ah, je ne dis pas qu'on peut faire autre chose que de partir de son expérience, son existence, ses facultés intellectuelles. Mais est-ce qu'on en est parti pour le meilleur, ou est-ce qu'on en est parti parce que de toute façon on n'avait rien d'autre et que notre point de départ n'était pas si parfait que cela ? Un peu comme le bricoleur, si vous voulez. Le bricoleur, c'est celui qui fait avec ce qu'il a, la définition courante. Il peut faire des choses merveilleuses, avec un bon bricoleur ou un mauvais bricoleur, mais on peut aussi, même avec la plus grande dextérité de bricoleur, ne pas avoir les matériaux qui permettraient de fabriquer. Avec des clous et des planches, on peut faire une caisse à savon, on ne peut pas faire une voiture au sens propre du terme. Et si nous étions dans la position de gens qui partent de ce qu'ils sont, des clous et des planches, et qui prétendraient fabriquer une super Ferrari. en ayant l'illusion, parce qu'ils n'ont connu que ça, que leur caisse à savon est une super Ferrari. Alors, ils seraient contents d'eux, merveilleux, illusion heureuse, illusion rassurante, mais illusion tout de même, autrement dit, il y aurait dans ces preuves quelque chose d'anthropocentré, c'est-à-dire qui serait trop centré sur nos habitudes de pensée et d'action, et qui, pour cette raison, ne serait pas totalement concluant. C'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous êtes d'accord, on fera la pause autour de 11 heures, ça vous fait une petite carotte pour cette réfutation. Alors, réfutation, on va commencer justement par le premier reproche, le plus facile, je crois, le plus courant, mais qui a ses raisons d'être, à savoir le reproche d'anthropocentrisme. La causalité, la finalité et l'existence comme perfection, c'est-à-dire les trois choses sur lesquelles on s'est appuyé pour ces preuves, pourraient toutes les trois être ramenées à des habitudes d'action ou des habitudes de pensée. Pour quelle raison? Parce que lorsque on raisonne sur le désir, c'est bien d'abord à partir de notre désir. La preuve tout à l'heure, quand je vous ai parlé du devenir de la pierre, qui si elle veut être pierre, du coup, ça vous a paru bizarre. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de facilité à partir de notre propre démarche et de notre propre quotidien que de raisonner à partir de choses qui nous sont éloignées. Quand une pierre, on arrive quand même à la comprendre. Donc, devinez ce que c'est quand l'objet est infiniment éloigné. L'existence comme perfection. Alors, chez saint Anselme, ça n'a pas donné lieu immédiatement à un débat, c'est plutôt un débat qu'on trouve après Descartes, qui reprend cette preuve. Et l'un des objecteurs de Descartes lui écrit, ou plutôt il veut chercher à bien comprendre, il dit « Bon, j'ai bien compris la preuve ontologique, tout ça, c'est intéressant, merci beaucoup, très beau livre, félicitations. Question, pourquoi l'existence est une perfection ?» Alors, Descartes reprend un peu l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que c'est quand même mieux d'avoir la chose réelle que de l'avoir seulement en projet, en idée. Bon. Mais l'objecteur revient, ouais, mais je comprends pas très bien, parce que quand même, il y a des choses déjà dont l'idée est vraiment sympa, et puis, est-ce qu'on peut dire que ce qui nous arrange, nous, dans l'ordre de notre existence humaine, arrangera Dieu lui-même? Autrement dit, est-ce que ce n'est pas un problème humain de se dire je préfère la richesse réelle que le rêve de la richesse? Eh bien, Descartes répond en disant bah parce que c'est comme ça. Ah. Un peu énervé. Alors, cette réponse un peu rapide, dans d'autres mots, mais qui revient à ça, revient à dire que c'est une intuition. L'existence est une perfection. Bah oui, non, enfin, on peut en discuter. C'est-à-dire, pour nous, oui. Est-ce le cas pour l'être lui-même en général? Est-ce que ce n'est pas une projection? Et puis, j'en arrive au dernier temps de cette critique d'anthropocentrisme, cette idée que on ramène tout à l'homme et à ses seuls réflexes de pensée, c'est la causalité elle-même. Alors en général, on dit, bah oui, mais là, au moins pour la causalité, on est sûr. Regardez la première preuve, l'œuf et la poule, il y a dû y avoir une poule œuf, un œuf poule, une cause assouvie, un moteur non nu. Il est vrai qu'on ne peut pas observer le monde, penser le monde, décrire le monde, sans la notion de causalité. Chaque chose que vous pensez, alors, soit vous en prenez conscience, soit c'est toujours possible, est pensée comme l'effet d'une cause. C'est une règle de l'esprit humain. On peut discuter sur la nature exacte des causes, on peut, comme Aristote, en mettre quatre genres, etc. etc. Mais devrait-il qu'on voit toujours le monde à travers le spectre de la catégorie de causalité? Alors, deux options. Soit on voit des causalités partout, parce que les causalités sont réellement partout, première option. Soit on voit des causalités partout, parce qu'on n'est pas capable de voir le monde autrement. Parce qu'on serait fait comme ça, et qu'on se serait tellement habitué à projeter l'idée de cause sur tous les êtres qu'on observe, qu'on aurait fini par croire que le monde est fait de cause. Imaginez un homme qui est toujours vu en noir et blanc, ça existe, hein, d'ailleurs ce sont des pathologies de la vue. Là c'est pathologique, mais pour certains animaux par exemple c'est comme ça, hein, les chiens voient en noir et blanc. Mais imaginez un homme qui puisse en témoigner. Pour lui le monde serait un dégradé de noir, de gris et de blanc, et le monde aurait sa cohérence, il peut agir, il peut travailler, il peut parler avec vous, il n'y a pas de problème. Quand vous allez lui parler de couleur, il va vous dire « Ah oui, je vois très bien !» le gris clair, là, ce que toi t'appelles le jaune, bon, tu sais pas parler, mais c'est du gris clair, moi je sais bien, je le vois comme tel. Et le rouge sombre, tu veux dire le gris foncé, ah oui, pas de problème, je vois ce que c'est. D'ailleurs, t'as vu, aujourd'hui j'ai mis du noir, ah, on se recoupe sur le noir. Bref, vous voyez que on peut avoir un système de perception qui rend la vie cohérente, qui permet d'agir, qui permet de penser, qui donne une cohérence à l'ensemble de votre existence et qui ne vous permettra jamais de parvenir à l'idée de couleur. Eh bien, faites l'analogie, imaginez qu'il en soit ainsi pour la causalité. C'est-à-dire que nous serions tous affectés de la même pathologie, une pathologie très naturelle, et que l'idée de causalité serait tellement en nous que nous aurions pris l'habitude de croire que c'est normal. Si nous voyons tous en noir et blanc, nous penserions que c'est normal de voir le monde en noir et blanc, et nous n'aurions pas l'idée de couleur. Mais si nous voyons le monde par la catégorie de causalité, eh bien, il n'y a aucune raison de penser que quelque chose pourrait y échapper, pas plus que l'homme qui voit en noir et blanc ne peut imaginer la couleur. Eh bien, ce que nous dit Kant, c'est avec lui que j'enchaîne sur cette réputation, c'est qu'il se pourrait bien que nous soyons des aveugles, des gens qui voyons en noir et blanc, ou des gens qui nous imaginons que la vie est réellement faite de causalité, alors que c'est juste une mauvaise habitude, ou un réflexe naturel, ou une propriété intrinsèque de l'esprit humain, bref, quelque chose qui est en nous, à quoi nous pensions pouvoir échapper, parce que c'était dans la vérité des choses et que c'était pas un défaut, mais qui ne serait qu'une hypothèse. Prenons s'il vous plaît le texte 3. Donc, un extrait de la critique de la raison pure. En général, ce titre fait fuir tout le monde, mais vous allez voir que ce que je vous ai dit est la version simplement introductive à ce qui suit. Alors, Kant présente le problème sous la forme d'une opposition. Thèse dans l'antithèse, c'est la quatrième dans le conflit. La thèse, c'est que Dieu existe. Le monde implique quelque chose qui, soit comme sa partie, soit comme sa cause, est un être absolument nécessaire. Il aurait pu ajouter, voir Aristote métaphysique comme l'ascète, qu'on a fait tout à l'heure. Et l'antithèse, ce sont justement les païens, les détracteurs, ceux qui ne font pas confiance aux preuves qu'on a évoquées tout à l'heure. Il n'existe nulle part aucun être absolument nécessaire, ni dans le monde, ni hors du monde, comme étant la cause. Alors, c'est une manière pour Kant de dire, ben voilà, on a les deux camps, la droite, la gauche, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, etc. Alors, question, comment est-ce qu'on va sortir de cela? Est-ce qu'il va nous ramener aux thèses traditionnelles? Est-ce qu'il va nous dire qu'il y a une preuve supplémentaire qui, non pas annule, mais parfait toutes les autres? Eh bien non, sa thèse, c'est qu'il n'y aura jamais de solution à cela. Et que la seule chose que l'on peut affirmer, c'est que l'on ne peut pas affirmer quoi que ce soit. Autrement dit, que cela reste une hypothèse. Prenons le début du texte intitulé 102. C'est bien ça. On va prendre le deuxième paragraphe, excusez-moi. Mais en cela, notre intention n'est pas de démontrer l'existence inconditionnellement nécessaire d'un être, ni même d'y fonder seulement la possibilité d'une condition simplement intelligible de l'existence des phénomènes du monde sensible, c'est de l'allemand traduit et en plus c'est du Kant. Hein. Mais seulement tout en limitant la raison de telle sorte qu'elle n'abandonne pas le fil des conditions empiriques et ne se précipite pas dans des principes d'explication transcendants et qui ne sont pas susceptibles de représentation in concreto. De restreindre aussi, d'un autre côté, la loi de l'usage simplement empirique de l'entendement, de manière qu'il ne décide pas de la possibilité des choses en général, et que par là, il ne regarde pas comme impossible l'intelligible, bien que ce dernier ne puisse pas nous servir pour l'explication des phénomènes. Bon, une petite phrase de 15 lignes, mais qui n'est pas dure, en vertu de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que Kant, en fait, c'est l'idée principale du paragraphe, parle d'une restriction du pouvoir de la raison. Et il ne dit pas que Dieu n'existe pas, il dit oui, c'est possible, pas de problème. Simplement, en vertu des 500 pages qui précèdent, où il a parlé de la causalité et tout ça, et qu'il y a, eh bien, il dit la causalité, on s'en sert, nous, pour notre vie à nous, dans notre monde à nous, à partir de notre point de vue à nous. Et il appelle ça le monde empirique, ou le monde du phénomène. Il dit, en revanche, quand vous vous faites des preuves sur l'existence de Dieu, vous prétendez à partir de votre monde, de notre monde à nous, parler d'un monde au-delà de nous. Question, qu'est-ce qui vous permet de faire ce pont entre un continent et un autre s'ils sont séparés par un océan tel qu'aucun bateau ne puisse l'emprunter? Alors, par analogie, rien ne prouve que l'idée de causalité puisse être appliquée dans un autre univers que notre univers matériel, la nature, etc. J'ai dit rien ne prouve, mais Kant ne dit pas pour autant que Dieu n'existe pas. Il dit c'est une possibilité qu'on peut envisager, mais pour laquelle la thèse, tout comme l'antithèse, se renvoie l'une à l'autre, sans possibilité de décider, en tout cas sur le plan théorique. Alors vous voyez que déjà dans cette réfutation, notre preuve numéro 1 et numéro 2, c'est-à-dire par les causes d'avant et par les causes d'après, tombe. Parce que si tout d'un coup on dit, bah oui, il y avait un a priori dans notre raisonnement, c'était l'idée de cause. Et il est vrai que Aristote, quand il définit la cause en métaphysique delta, dit c'est ce qui engendre, c'est quel principe, c'est ce qui explique, mais il ne dit jamais, et ça pourrait d'ailleurs être un concept purement humain. Donc il y a quelque chose qui est là tellement immédiat que comme tout ce qui est un peu immédiat, comme les lunettes qu'on porte sur le nez, on finit par ne plus le voir. Comme ces gens qui cherchent leurs lunettes, absolument, il est porté déjà. Bon. Eh bien, nos lunettes, en l'occurrence, c'est notamment l'idée de causalité, si nous serions tributaires de cela pour faire un système de cause. Donc, déjà, nos deux premières preuves ne deviennent que des hypothèses, et on doit leur retirer leur statut de preuve. Mais on va faire la même chose au sujet de la preuve ontologique. Alors, de manière un petit peu plus allusive, juste pour vous montrer que si on peut réfuter les preuves, on suit aux deux types empiriques de la preuve ontologique, juste pour vous montrer que si on peut réfuter les preuves par la mise en doute de certains concepts, comme celui des causes, c'est ce que je viens de faire, on peut réfuter les preuves en fouillant le langage. Alors, on le fait déjà, hein, quand on dit mais vous avez parlé de causes, est-ce que ça veut bien dire que. Mais en le fouillant encore plus. Et c'est là tout le projet, pour les preuves de licence Dieu, mais plus généralement, de ce qu'on a appelé au XXe siècle la philosophie analytique, qui n'a fait qu'exprimer ce qui, de ce point de vue-là, était sous-jacent dans toute l'histoire de la philosophie, à savoir, pour bien penser, il faut bien parler, et pour bien parler, il faut peut-être amender la langue, c'est-à-dire non seulement se donner de bonnes définitions, mais vérifier que même en se donnant de bonnes définitions, comme beaucoup de philosophes sérieux l'ont fait, on n'aurait pas laissé trop de choses en route. Et c'est ce que fait Russell, notamment, lorsqu'il cherche à réfuter, à discuter dans un premier temps, puis à réfuter la preuve ontologique, et qui reprend les termes de Saint-Anselme ou Descartes, pour dire, bon, votre preuve, elle commence par soit l'être tel qu'il est défini par sa perfection à tous égards. On a dit, la plupart du temps, on va interroger la notion d'être, on va interroger la notion de perfection, et tout ça est très bien. Il dit, on n'a peut-être pas interrogé ce que personne ne voit, nouvelles lunettes qu'on ne trouve pas parce qu'elles sont sur notre nez, le L apostrophe, soit l'être défini par sa perfection à tout point de vue. Et alors, il va partir dans tout un raisonnement apparemment complexe, moi je pense qu'on peut le simplifier tout de même, sur les expressions dénotantes, il les appelle comme ça, ou encore sur les descriptions définies. Et il va s'interroger sur qu'est-ce qu'un nom propre, qu'est-ce qu'un vrai nom propre, qu'est-ce qu'un faux nom propre. Parce que quand vous dites, soit l'être et l'apostrophe défini par sa perfection, d'abord vous en définissez un seul, vous le pointez, vous dites bien cet être-là, et si dans la même phrase vous disiez on n'est pas sûr que c'est un, deux ou trois, vous aurez un problème. Vous, Saint Anselme, dit l'être défini par sa perfection, s'il y en a un autre, il est au moins plus parfait, donc ça ne marche pas. Il ne nous en faut qu'un seul. Il fait plein de comparaisons avec d'autres êtres qu'on nomme sur un mode analogue. La table sur laquelle je m'appuie maintenant, il n'y en a qu'une. Ah, il y a peut-être d'autres tables, c'est vrai. On peut parler de la table en général, mais ce n'est plus la même chose dans ce cas-là. Si je dis la table en donnant quelques critères pour préciser que c'est celle-ci, ce qui vient dire cette table-là, hein, concrètement, eh bien, je fais en vérité ce que vous avez dans le texte 4, qui pourrait vous faire fuir, mais comme vous êtes courageux, vous allez rester. Je fais un double présupposé qui consiste à dire que cette table, elle est définie ainsi, de manière unique, et qu'elle existe. Alors ça se lit comme ça, tous ceux qui penseraient que la philosophie est une discipline littéraire, je suis désolé. Elle n'a jamais été et ne sera jamais littéraire. Et les lettres, c'est très bien, mais évidemment, il n'y a que les lettres qui sont une discipline littéraire. Comme si tout ce qui s'écrivait était littéraire. Il n'y a jamais un avocat qui a fait des études littéraires. Enfin, il écrit, là. Et lui, il n'utilise pas ce genre de sigle. Alors, je lis. Iota de x de x signifie par définition il existe un y tel que pour tout x, f de x implique que x est égal à y. Alors, tout ça paraît bien loin de notre forme de logique, ça veut dire quoi? On va le faire d'abord avec la table, et après on va venir à la forme de logique. Alors, quand je dis cette table sur laquelle je m'appuie, je la décris un peu, elle a telle forme, etc., elle est placée à tel endroit. Eh bien, je dis, il existe une table, alors, il existe une et unique, c'est ça que veut dire le iota. Alors, il existe un x. X, c'est l'indéterminé, f, c'est quoi? Bah, c'est la définition de la table que je viens de vous donner. Donc, soit f qui a tout être attribut, être la table sur laquelle je suis en train de m'appuyer. On dit, il existe un x unique tel que ce x est défini comme cette table. Ça veut dire quoi? C'est juste l'explicitation. Eh bien, par définition, à supposer qu'il y ait un autre terme, un y. Faisons l'hypothèse qu'il y ait une deuxième table qui définisse exactement la table que je viens de vous dire. Eh bien, pour toute autre table, pour tout x, si on peut parler de cette table-là, c'est-à-dire f de x, eh bien, c'est que y, c'est x. On dit qu'il n'y a qu'une table. Qu'est-ce que cela veut dire? J'en reviens à ma preuve de l'existence de Dieu. Même si vous ne comprenez pas tout le détail, mon but est de vous faire saisir qu'en fouillant le langage par lequel on est passé pour mettre en place un raisonnement assez simple, puisqu'il se résume à trois petites phrases, eh bien, on était déjà en train de prendre plein d'options linguistiques qui révèlent qu'en fait, on voulait démontrer ce qu'on avait déjà posé. Voilà ce que nous dit Russell. Pourquoi? Parce que quand je vous parle de cette table, eh bien, du point de vue strictement linguistique, quand je dis la table sur laquelle je suis en train de m'appuyer, du point de vue strictement linguistique, c'est de la même nature que quand je dis l'être défini par sa perfection. C'est strictement identique. Alors, il y aurait des L apostrophes qui veulent dire autre chose, Russell les recense, et dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Or, pour parler de la table sur laquelle je m'appuie maintenant, je veux dire qu'elle est unique, parce que si je m'appuie sur deux tables en même temps, eh bien, c'est un peu comme si j'étais en train de faire, je finirais par tomber. Bon. Donc il ne peut y en avoir qu'une, sinon elle ne remplit pas la fonction que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'ai, d'une manière ou d'une autre, pointé, observé, affirmé à la fois son unicité et son existence. C'est cela, la description définie qu'on est en train de faire de la table. Eh bien, faites la même chose pour Dieu. Soit l'être défini par sa perfection. Alors là, vous arrêtez saint Anselme, vous dites, attends, pas plus loin. Est-ce que tu veux dire le L apostrophe de la description définie qui t'oblige à dire que tu l'as constaté d'une certaine manière et qu'il est unique? Alors au début, vous dites, non, pas du tout, c'est pas ce que je veux faire, je veux convertir le païen. Oui, mais t'as dit L apostrophe suivi de toutes les caractéristiques. Donc tu as déjà considéré que Dieu s'était donné à toi de manière unique et que tu renvoies ça à une expérience. Ah mais pas du tout, ah mais si, mais non, mais non, mais si, mais si. Bref, nous nous sommes fait trahir par notre langage. Voilà ce que veut dire Russell. Alors, encore une fois, il y a toute une complexité logique à l'intérieur de ce raisonnement. Mon but est surtout de faire prendre conscience que pour faire ces preuves, comme chaque fois que nous raisonnons, nous passons par le langage, qui est un langage humain, qui renvoie à une certaine relation à la réalité, et que cette relation à la réalité, qui est une relation plutôt empirique, nous dit Russell, c'est-à-dire qui renvoie à des expériences que nous faisons au quotidien, eh bien, est peut-être très mal adapté à un raisonnement qui porte sur ce qui est au-delà de la réalité. On va proposer une dernière réfutation, ce sera la plus courte des trois, qui ne porte pas cette fois sur quelques concepts de la preuve, comme c'était le cas avec Kant, qui ne porte pas cette fois sur les mots les plus apparemment simples que l'on maîtrise, mais qui ne serait finalement pas du tout maîtrisé, ou qui serait chargé d'options qu'on ne voulait pas prendre, mais qui cette fois porte sur l'agencement des phrases, même en supposant qu'on comprenne tout à l'intérieur de ces phrases. C'est-à-dire, faisons comme si Russell n'avait jamais rien dit, le L apostrophe je maîtrise, et je ne postule jamais l'existence de ce dont je veux prouver l'existence, et faisons comme si la causalité, ça posait aucun problème. Hypothèse plutôt charitable. Et bien même là, on a un problème. Car pour que nos preuves soient des preuves, il faut que nos deux ou trois ou quatre phrases, ça dépend de la présentation que vous en faites, et bien soient articulées logiquement, comme avec Saint Anselme, lorsque je dis soit l'être défini par sa perfection à tous égards, or l'existence fait partie de la perfection, donc cet être défini par la perfection existe. Eh bien, le or et le donc comptent dans notre aventure. Et si tous nos or et tous nos donc, plus essentiellement tous nos donc, étaient des illusions de l'esprit? Alors voilà une question que les mathématiciens ne se poseront pas. S'il n'y a plus de donc, il n'y a plus de maths. Ça marche. La force, c'est qu'on applique. Après, on fait de la physique. Et puis, on peut en tirer des machines qui fonctionnent. On voit des satellites, etc. Donc ça marche. Oui, ça marche pour faire des choses humaines, pour les hommes, faites par des humains. Prenons, s'il vous plaît, le texte numéro 5 de Descartes, dans les règles pour la direction de l'esprit. Alors, il fait ce qu'on appelle le syllogisme. C'est pas dur le syllogisme, c'est ce que je viens de faire devant vous. Tatata, or, tatata, donc, tatata. Voilà. C'est ça un syllogisme, présenté simplement. Et il écrit, mais pour qu'il apparaisse avec plus d'évidence encore, que cette technique de l'argumentation n'apporte absolument aucune contribution à la connaissance de la vérité, il convient de remarquer que les dialecticiens ne peuvent construire, selon les règles, un seul syllogisme dont la conclusion soit vraie, s'ils n'en possèdent déjà la matière, en d'autres termes, s'ils ne connaissent pas à l'avance cette même vérité qu'ils déduisent. D'où il ressort qu'ils ne reçoivent eux-mêmes de cette fameuse forme aucune connaissance nouvelle. Je m'arrête là. La forme et la matière ici. La matière, c'est pas la matière en plus, c'est le contenu de chacune des propositions. Si je réduis formellement le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, le raisonnement de départ, c'est soit l'être défini par sa perfection à tous égards, or la perfection implique où l'existence est une perfection, donc l'être défini par la perfection à tous égards qu'on appelle Dieu existe. Ça revient à dire soit A défini par B, B comprend la caractéristique C, donc A comprend la caractéristique C. C'est la même chose. Bon. Eh bien, A, B, C, présenté ainsi, c'est la forme du raisonnement. Or, nous dit Descartes, alors c'est amusant qu'il fasse cette critique du syllogisme, sachant que lui-même, il recourt souvent, alors avec des ajustements, mais qui font que le texte cartésien n'est pas aussi cartésien que voudrait Descartes, et que ses épigones ont à cœur de faire un cartésianisme rectifié. Bref, Descartes dit, mais finalement, si je dis tout A est défini par B, et que B comporte forcément C par définition, la preuve c'est que vous le mettez juste après. Parce qu'en fait vous aviez déjà dit que A comportait C, c'était pas la peine de passer par B. À la rigueur ça peut servir à l'école pour clarifier. Voilà. Comme quelqu'un qui ne comprend pas tout de suite, vous dit, bah attends, je vais t'expliquer, on va prendre son temps. Alors, on prend son temps, en syllogisme, on dit alors soit l'être défini par la perfection implique l'existence, donc l'être parfait existe. Mais en fait, je l'avais déjà dit. Donc c'est une critique finalement involontaire mais encore plus sévère à l'égard de l'argument ontologique qui inspirera tout de même Descartes par ailleurs, à savoir que vous croyez avoir une vraie preuve fondée en raison sur un raisonnement imparable, mais finalement on avait déjà posé ce dont on avait besoin. Alors, on peut dire, mais oui, mais comme vous avez déjà parlé de Dieu, finalement c'est que... Hein, simplement, si le but est de prouver qu'il existe et qu'on est obligé de confesser qu'on est parti de l'idée qu'il existait, dans ce cas-là, il ne faut pas appeler ça preuve de l'existence de Dieu. Il faut appeler ça connaissance innée de l'existence de Dieu. Ou bien il faut dire qu'on ne peut pas le prouver. Ou bien il faut dire que Dieu n'existe pas. Mais il ne faut pas appeler ça preuve. Donc, vous voyez, ça ne détruit pas l'édifice des preuves. Mais ça revient à dire qu'il ne faut pas appeler ça preuve, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prétendre que l'esprit humain est capable d'anticiper l'existence à partir des seuls concepts. C'est pour ça, par exemple, que saint Thomas proposera 5 voies pour l'existence de Dieu, mais ne retiendra pas la preuve de saint Anselme. On ne peut pas déduire l'existence des concepts, il faut toujours partir d'un constat précédent en cela pas mal des réputations que je suis en train d'évoquer. Je vais reprendre après la pause cette critique du formalisme, elle aura une suite, vous verrez, et puis on tirera le bilan de tout ça dans la troisième partie. Merci. On se retrouve à 15h.